Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 4 septembre 2024. Xi Jinping a accueilli aujourd'hui une vingtaine de dirigeants africains pour le début du sommet Chine-Afrique. Au Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko promet la dissolution du Parlement alors que la coalition de l'ancien président Macky Sall a déposé une motion de censure contre le gouvernement. En Tunisie, le candidat à la présidentielle Ayachi Zamel, placé en détention provisoire. Que s'est-il passé à la prison de Makala en RDC? Retour sur une tragédie qui a fait environ 130 morts.
Mon petit frère, Caleb Ipeke Yulubangi, qui est à l'âge de 23 ans.
Francilia Ngalula, sœur d'un prisonnier décédé dans la tentative d'évasion à la prison de Makala, nous en dira plus dans la partie magazine. À Jakarta, le pape appelle à contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président chinois Xi Jinping a reçu ce mercredi à Pékin plusieurs dirigeants africains pour le banquet d'ouverture du forum sur la coopération Chine-Afrique. Nathalie Barge.
Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont accueilli une vingtaine de dirigeants avant une photo de groupe et un dîner au Palais du Peuple. Le président chinois a eu ces derniers jours des entretiens avec une dizaine d'entre eux, dont les présidents congolais Félix Tshisekedi, kényan William Ruto, sud-africain Cyril Ramaphosa et zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Xi Jinping a condamné les sanctions imposées par les États-Unis au Zimbabwe. Et lorsqu'il a reçu son homologue nigérian Bola Tinubu, il a appelé à une plus grande coopération dans le développement des infrastructures, de l'énergie et des ressources naturelles. Le Nigeria est l'un des pays africains ayant le plus emprunté à la Chine. En 2023, la Chine a accordé moins de 5 milliards de prêts aux pays africains, un net recul par rapport à 2016, où il s'élevait à près de 30 milliards de dollars. Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours demain jeudi lors de la cérémonie d'ouverture du sommet qui s'achèvera vendredi.
Au Sénégal, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se poursuit après avoir rejeté lundi soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités. L'opposition a introduit une motion de censure contre le gouvernement. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
Les opposants accusent le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko de se soustraire à une déclaration de politique générale depuis sa prise de fonction. La coalition Bénébok-Yakar de l'ancien président Macky Sall est majoritaire à l'Assemblée nationale. La motion de censure peut être adoptée à la majorité simple. Je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 septembre et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés, a réagi le Premier ministre Ousmane Sonko. Il a indiqué que le gouvernement va présenter en septembre les nouveaux référentiels de politique publique d'ici à 2050 et pour les 5 et 10 années à venir. Le président peut dissoudre l'Assemblée à partir du 12 septembre. Lundi soir, la coalition de l'opposition a rejeté le projet de révision de la Constitution pour supprimer deux institutions jugées budgétivores par le pouvoir, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social. Le président Bassirou Diomaye Faye dit prendre acte du rejet de ce projet et soutient que ce vote illustre la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires exprimées lors de la présidentielle de mars. L'opposition l'accuse de vouloir utiliser ce prétexte de rejet de son projet de révision de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale.
L'opposant ougandais Bobi Wine, touché mardi par un tir de la police, selon son parti, a été blessé par une grenade lacrymogène et devra être opéré pour retirer des fragments dans sa jambe, a indiqué son avocat ce mercredi. Bobi Wine a été arrêté ou assigné à résidence à de multiples reprises ces dernières années et les rassemblements de ses partisans régulièrement dispersés, parfois violemment. Un tribunal du Zimbabwe a renvoyé aujourd'hui en prison, dans l'attente de leur procès, pour attroupement illicite, le chef de l'opposition, Jameson Timba, et 65 de ses partisans, tous détenus depuis près de 3 mois. M. Timba, qui a pris la tête en janvier de la coalition des citoyens pour le changement, a été arrêté le 16 juin lors d'une réunion privée à son domicile d'Harare, en compagnie d'environ 80 personnes. La police les accusait de vouloir inciter à troubler l'ordre public. Le procès de M. Timba et ses compagnons soignants a été reporté à plusieurs reprises. En Tunisie, Ayachi Zamel, le candidat à l'élection présidentielle du 6 octobre, fait l'objet d'un mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de falsification de parrainage. Claire Morin-Gibou.
Interpellé lundi, Ayachi Zamel est placé en détention et doit comparaître demain devant le tribunal de Manouba. Trois autres candidats considérés comme des rivaux sérieux du président sortant Kais Saied ont été déjà écartés par l'autorité électorale ISI. La justice reproche à M. Zamel d'avoir enfreint les règles sur les parrainages comme les trois candidats recalés par l'ISI. Abdelatif Mekki, ancien dirigeant du mouvement Ennahda, Monder Zenaidi, ancien ministre de Ben Ali, et Imed Daimi, conseiller de l'ex-président Moncef Marzouki, également proche d'Ennahda, avait été disqualifié le 14 août avec 14 autres postulants pour manque de parrainage suffisant. 9 partis politiques et 9 ONG ont annoncé aujourd'hui la création d'un réseau tunisien de défense des droits et des libertés. Hier, la puissante centrale syndicale UGTT a qualifié d'illégale la décision de l'ISI, qui représente à ses yeux une violation dangereuse de la loi et l'application d'une décision politique.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont affirmé aujourd'hui à Ankara vouloir renforcer leur coopération. Selon la fin d'une longue décennie de bruit, les deux dirigeants ont signé 17 accords de coopération selon la présidence turque et ont réaffirmé devant la presse leur volonté de porter les échanges commerciaux entre leurs pays à 15 milliards de dollars par an d'ici 5 ans contre moins de 10 milliards actuellement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Indonésie, le pape François a appelé à renforcer le dialogue interreligieux pour contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance à l'entame d'une longue tournée en Asie-Pacifique, dans l'immense archipel qui abrite la plus importante population musulmane au monde, soit 242 millions pour quelque 8 millions de catholiques. Cette visite doit surtout s'articuler autour du dialogue islamo-chrétien. Les précisions de John Lindon.
Un tel dialogue est indispensable pour affronter les défis communs, dont celui de contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance, lesquels, en déformant la religion, tentent de s'imposer en se servant de la supercherie et de la violence, a déclaré le pape argentin lors d'un discours devant les autorités indonésiennes et le corps diplomatique à Jakarta. Le pape est arrivé mardi matin pour cette visite de 3 jours dans le cadre d'une tournée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie qui le conduira ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental puis à Singapour. Lors de cette visite en Indonésie, le pape François est aussi revenu sur la question controversée de la démographie, regrettant sur le ton de la plaisanterie que les habitants de certains pays préfèrent avoir un chat ou un chien de compagnie plutôt que d'avoir des enfants. Après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1989, François est le 3e pape à se rendre en Indonésie.
Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré aujourd'hui que l'armée éradiquait les organisations terroristes en Cisjordanie, menaçant d'utiliser toute la force pour arriver à cet objectif, selon un communiqué de son bureau. L'armée israélienne poursuit ce mercredi son opération entamée il y a une semaine dans le nord de la Cisjordanie, où au moins 30 Palestiniens ont depuis été tués selon le ministère palestinien de la Santé. Les États-Unis, pour leur part, ont estimé mardi qu'il est temps de finaliser un accord de trêve à Gaza après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé de céder aux pressions sur ce dossier au 11e mois de la guerre avec le Hamas palestinien. La déclaration américaine survient 2 jours après l'annonce par l'armée israélienne de la découverte dans un tunnel de Gaza de 6 otages tués selon elle à bout portant par le mouvement islamiste. Et puis, l'Ukraine a essuyé aujourd'hui de nouveaux bombardements russes qui ont tué 7 personnes à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à près de 1000 kilomètres du front, au lendemain d'une frappe meurtrière à Poltava. Parallèlement, le gouvernement ukrainien connaît son plus grand remaniement depuis le début de l'invasion russe il y a 2 ans. Le chef de la diplomatie, Dmitry Kouleba, annonçant son départ et le président Volodymyr Zelensky invoquant vouloir une nouvelle énergie. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Jigou.
Les autorités gabonaises ont signé hier des accords d'investissement de 4,3 milliards de dollars dans les secteurs des travaux publics et de l'énergie avec des investisseurs chinois à l'occasion de la deuxième édition du Forum économique Gabon-Chine qui se tient à Pékin. En Côte d'Ivoire, Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, a déclaré vouloir développer les stages d'immersion au sein des entreprises et de l'administration à l'occasion de la réunion de rentrée scolaire. Le ministre a rappelé qu'entre 300 et 400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année, alors que l'économie nationale ivoirienne ne génère que 100 000 nouveaux emplois par an. La part mondiale des revenus du travail a considérablement diminué au cours des deux dernières décennies, ce qui a aggravé les inégalités, a indiqué l'Organisation internationale du travail ce mercredi. L'OIT alerte sur l'écart croissant entre les revenus du travail et ceux du capital. Le rapport souligne aussi qu'une grande proportion de jeunes restent sans emploi, ni éducation, ni formation dans le monde, soit un jeune sur quatre en Afrique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Début ce mercredi des matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, les 48 sélections participantes réparties en 12 groupes de 4 équipes vont s'affronter de septembre à novembre 2024. Il est prévu deux journées couplées lors de chacune des 3 fenêtres FIFA prévues sur cette période. Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Entrée en lice réussie pour le Soudan qui s'impose sur la plus petite des marques 1-0 face au Niger. À suivre toujours ce soir, Libye-Rwanda dans le groupe C et Tanzanie-Éthiopie dans le groupe G.
Le Cameroun, lui, joue contre la Namibie, mais ce qui fait parler, c'est moins la forme de l'équipe que le stade qui va accueillir la rencontre.
Le stade est le lieu d'entraînement des Lions Indomptables. La FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, avait prévu Douala pour le rassemblement et Garoua pour le match. Le ministère des Sports, lui, a fait regrouper les joueurs à Yaoundé et voulait faire jouer le match sur place dans la capitale camerounaise. Mohamed Moulou, journaliste au quotidien camerounais Le Messager, nous explique les derniers développements de ce bras de fer.
Heureusement, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goudé, a décidé donc ce matin de convoquer l'ensemble des joueurs de l'équipe Fanion du Cameroun. Le chef du gouvernement a demandé aux joueurs de faire preuve de patriotisme et a laissé clairement entendre que seule la Fédération Camerounaise de football et bien sûr la Confédération africaine étaient à même de décider où devait se jouer la rencontre du 7 septembre prochain. Les feux sont au vert pour ce qui est de la ville de Garoua où la vente des billets par la Fédération Camerounaise de football a démarré depuis pratiquement 48 heures déjà.
Mohamed Moulou, journaliste au quotidien camerounais Le Messager.
Football féminin avec le mondial des moins de 20 ans qui se joue en Colombie.
Fortune diverse pour les 4 représentants africains, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Maroc. La nuit dernière, le Cameroun s'est incliné devant le pays hôte, la Colombie 0-1. Après son match nul héroïque, 2-2 contre le Mexique samedi. Les Nigérians refont surface cette nuit face aux Allemandes après leur victoire d'entrée 1-0 devant la Corée du Sud. Le Maroc, qui a perdu 0-2 face au Paraguay pour son premier match, joue contre les États-Unis toujours cette nuit.
À présent, des nouvelles des Jeux paralympiques.
L'haltérophile paralympique nigériane Esther Nworgu a arraché une médaille d'argent improbable au développé couché. Elle affirme que sa médaille était comme un paradis après s'être disloqué l'épaule il y a seulement 2 jours. Iwogu, qui a perdu l'usage de ses jambes lorsqu'elle était enfant, n'a manqué l'or au développé couché qu'à 1 kg de la championne en titre, la chinoise Qiuzi, dans la catégorie des 41 kg. Les efforts de la jeune femme de 21 ans ont toutefois été limités car elle a dû soulever la barre avec un seul bras en raison de sa blessure. À Paris, Ourgu fait partie d'une équipe nigériane de powerlifting qui comprend 8 compétiteurs et un grand nombre de détenteurs de records du monde.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au moins 129 personnes sont mortes dans une tentative d'évasion à la prison Makala à Kinshasa lundi dans des conditions qui restent confuses. Eddy Sango a joint à Kinshasa dans la commune de Lingwala la famille d'un des prisonniers décédés. La sœur du décédé, Francilia Ngalula, témoigne sur le décès de son frère Khaled Ipeke d'Ilubangi.
Je réponds au nom de Francilia Ngalula.
Oui, vous êtes à Kinshasa. Mais oui, vous avez donc perdu, quelqu'un dans la prison de
Mon
Makala,
petit frère, oui. Mon petit frère, Khaled Ipeke, Yulubangi, qui est à l'âge de 23 ans.
Il était donc incarcéré à la prison de Makala Seperka, c'est ça?
Depuis le 1er janvier 2024. Jusqu'aujourd'hui.
Mais comment avez-vous appris les décès de votre frère dans ces troubles qui ont eu lieu à la prison de Makala?
On était allé là-bas à la recherche et puis on nous a donné les numéros de la personne qui était avec lui au pavillon 5, qui nous a informé qu'il était décédé depuis le matin.
Avez-vous vu son corps?
Non, pas encore.
Et vous êtes adressé aux autorités de la prison pour demander si vous pouvez voir les corps. Et vous ont-ils confirmé que votre frère est décédé?
Non, pas encore. On est tenté seulement de chercher partout, dans les hôpitaux, dans les morgues, mais on n'a pas encore trouvé.
Vous êtes adressé aux autorités de la prison et de la justice pour ça?
Oui.
À qui? Expliquez-nous un peu. Quelles sont les démarches que vous avez faites?
Bon, en fait, on cherche seulement nous-mêmes. On n'a pas encore remplacé les membres des autorités. On nous cherche seulement nous-mêmes dans la famille.
Mais comment êtes-vous sûr que votre frère est décédé? Est-ce que vous avez demandé la confirmation aux autorités de la prison, ne fût-ce qu'aux autorités de la prison ou au gouvernement?
Oui, on avait demandé. Au prison, on avait demandé et puis on nous a confirmé qu'il était déjà mort depuis le matin de lundi. Il était déjà mort.
Qui a dit ça? Les autorités de la prison?
Oui.
Et qu'est-ce que cette nouvelle vous a fait? Je ne sais pas votre frère ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Comment vous vivez cela?
Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que je n'arrive même pas à vous expliquer ça. Donc, je n'arrive même pas.
Toute la
famille, on est là, mais je ne sais pas. Si je parle comme ça, c'est seulement pour la force, en fait. Je ne peux pas même causer comme ça parce qu'on n'est pas bien.
Vous êtes en deuil, dans le deuil?
Oui, on est en deuil.
Francilia Ngalula, sœur d'un prisonnier décédé dans la tentative d'évasion à la prison de Makala.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Nigeria, des efforts sont déployés pour tenter de prévenir les accidents de la route. Les analystes imputent la responsabilité des accidents à l'incapacité de la Commission fédérale de sécurité routière à faire respecter les règles de circulation qui incluent l'excès de vitesse et la surcharge de véhicules. Nathalie Barge relate un reportage d'Alassane Bala à Abuja.
Manœuvrer dans les nids de poules est devenu normal pour ceux qui conduisent sur l'autoroute Kaduna-Abuja. Selon le Bureau national des statistiques, en 2023, plus de 5000 personnes ont été tuées et près de 32 000 ont été blessées dans des accidents de la route au Nigeria. Le seul segment d'autoroute entre Kaduna et Abuja a entraîné 490 décès. Adamu Ibrahim Nababa, survivant d'un accident de la route.
Le mauvais état actuel des routes et le fait qu'elles soient à sens unique sont des problèmes majeurs contribuant aux accidents. J'ai eu un accident deux jours après un autre sur la même autoroute où 10 personnes sont mortes.
Bassirou Houssaini a survécu à un accident et reçoit un traitement dans un hôpital orthopédique à Kaduna.
Je conduisais lorsque mon volant s'est détaché. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Elle s'est déplacée sur l'autre voie dans laquelle nous avons eu une collision frontale avec un bus de 12 places. C'est ainsi que je me suis fracturé les jambes.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,19 million de personnes meurent et environ 50 millions sont blessés dans des accidents routiers chaque année dans le monde. Salissou Maïdori, propriétaire d'un hôpital orthopédique, dit que la plupart des patients qu'il traite sont des victimes d'accidents de la route.
La plupart du temps, les hôpitaux envoient les patients ici. Je traite généralement au moins 10 nouveaux patients fracturés par jour et 9 d'entre eux sont des victimes d'accidents de la route. En un mois, nous traitons pas moins de 100 victimes d'accidents de la route.
Selon Mohamed Moussa Maïtakobi, président de l'Association des travailleurs du transport routier, la corruption au sein de la police est un problème au Nigeria.
Les security agencies.
Certains membres du personnel de sécurité chargés de faire respecter le code de la route acceptent des pots de vin, mais pas tous. Certains rejettent la corruption et font ce qu'il faut.
La Commission fédérale de sécurité routière du Nigeria a été critiquée pour son incapacité à faire respecter les règles de circulation. La Voix de l'Amérique a contacté le bureau du porte-parole de la Commission fédérale de sécurité routière, Jonas Agu, une démarche restée sans réponse. Le Nigeria compte plus de 11 millions de véhicules, soit 75% des véhicules immatriculés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et le nombre de Nigérians au volant est en augmentation constante.
Humanitaire au Soudan, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, s'est rendue à Port-Soudan pour rencontrer des responsables soudanais en vue d'intensifier les efforts humanitaires dans ce pays. La guerre aggravée par des inondations a déplacé des millions de personnes. Le point avec Alexandrine Ollognon.
Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe de l'ONU, appelle la communauté internationale à agir de toute urgence face à la crise humanitaire au Soudan, où la famine et les souffrances des populations exigent une réponse immédiate et un soutien massif.
Pour amener la communauté internationale pour qu'elle prenne conscience de la crise ici au Soudan, c'est une crise immense. De nombreuses personnes souffrent, ce qui nécessite un soutien considérable pour que les engagements pris envers la cause humanitaire soient tenus et ils doivent l'être de manière urgente. Nous faisons face à une crise imminente de famine. Nous ne recevons pas de fournitures médicales. Il y a des crises sanitaires, mais plus important encore, nous devons nous rappeler de la souffrance des gens.
La vice-secrétaire générale de l'ONU a également visité le poste frontière d'Adré dans l'est du Tchad, où elle a assisté au passage d'un convoi d'aide humanitaire. Dans ce contexte de guerre, la population soudanaise fait face à des catastrophes naturelles. Des inondations frappent le nord et l'est du pays, aggravant le sort des milliers de déplacés déjà affectés par le conflit. Oumaïman Zakaria Adam, une Soudanaise ayant tout perdu, raconte comment des pluies torrentielles ont transformé sa vie en cauchemar, détruisant sa maison et la laissant sans abri dans la rue.
Nous avons eu de fortes pluies qui se sont transformées en inondations. Toutes nos maisons se sont effondrées. La mienne a été totalement détruite. Nous sommes assis pendant la rue et nous n'avons nulle part où aller.
Parallèlement, des Soudanais comme le professeur Dia Elden Awad et le citoyen Mouraned Ibrahim expriment à la fois l'espoir d'une paix durable et la fin de leurs souffrances suite aux discussions sur un cessez-le-feu lancé par les États-Unis à Genève avec le soutien de l'Arabie Saoudite et de la Suisse.
En fin de compte, ce qu'il faut, c'est la paix, la fin de la guerre, le retour des citoyens dans leur foyer et la reconstruction de ce qui a été détruit pendant la guerre au Soudan.
Nous espérons que les négociations aboutiront à un résultat positif et qu'elles permettront d'alléger les souffrances du peuple soudanais, car nous avons récemment subi le déplacement et l'asile, ce qui ne nous convient pas.
Ces discussions de paix n'ont pas réussi à instaurer un cessez-le-feu. Le général Al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant de facto du Soudan, continue de rejeter toute négociation.
Nous ne portons pas atteinte aux droits du peuple soudanais tant que cette milice n'aura pas été détruite et que nous n'aurons pas libéré chaque centimètre qu'elle a profané, cette guerre ne s'arrêtera pas.
Bien que les discussions aient pris fin sans accord de cessez-le-feu, elles ont abouti à l'engagement des belligérants de permettre un accès sûr et sans entrave aux humanitaires sur deux routes clés. Les efforts pour trouver une solution à cette crise multifactorielle se poursuivent, mais la population soudanaise continue de souffrir avec peu d'espoir de répit à court terme.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La criminalité à New York inquiète de nombreux habitants, certains imputant la responsabilité de cette situation à l'afflux de migrants illégaux au cours des deux dernières années. Nathalie Barge, que nous retrouvons, relate ici un reportage d'Aaron Raren qui a rencontré des officiels, des militants et des migrants.
La question du statut de sanctuaire de la ville de New York a atteint un point de rupture en janvier, près de Times Square, où un groupe de migrants a attaqué deux policiers. La police locale ne peut pas coopérer avec les autorités fédérales de l'immigration. Lorsque les migrants sont reconnus coupables de crimes et libérés, l'immigration n'est pas informée, ce qui empêche les expulsions. Marie Schultz, résidente de New York.
Je pense que les tribunaux devraient communiquer avec le contrôle de l'immigration et des douanes et se débarrasser des personnes qui commettent des crimes.
Les militants pour les migrants ont le sentiment que le problème est exagéré. Ilse Tillman, directrice du groupe d'aide aux migrants Team TLC.
Je pense que le statut de sanctuaire doit être maintenu. Ce genre de mise en avant des cas isolés de migrants qui commettent des crimes est typique. Vous choisissez les histoires en mettant l'accent sur le négatif pour faire d'un certain groupe de personnes un bouc émissaire.
Lors d'une conférence de presse le 27 août, le maire de New York, Eric Adams, a exprimé son point de vue sur la modification du statut de sanctuaire de la ville.
Les personnes qui commettent des actes de violence sur les New-Yorkais et d'autres migrants, demandeurs d'asile et personnes sans papier, ne devraient pas rester dans notre pays après avoir purgé leur peine.
Ken Genalo du service de l'immigration et des douanes expose aussi son point de vue.
Nous voulons juste des changements mineurs qui nous permettent de collaborer avec la police de New York et d'arrêter ces individus et de les sortir de la rue.
Genalo affirme qu'il n'existe aucune donnée sur la criminalité des migrants à New York. De nombreux migrants sans-abri campent dans des tentes sur Randall Island. Certains disent qu'après le coucher du soleil, l'atmosphère change. Monsieur Diallo, migrant sans papier.
Quand vous êtes dehors, vous ne vous sentez généralement pas en sécurité parce qu'il y a beaucoup de monde. Ils ont une arme, certains d'entre eux ont un couteau.
La question est ainsi de savoir si New York peut continuer à être une ville sanctuaire tout en garantissant la sécurité de tous ses habitants. Et la réponse pourrait peut-être façonner l'avenir de la ville et de ses politiques.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.